Ouais, salut à tous. Juste une petite info, là, voilà. Il se trouve que je voulais savoir le thème de l'émission du téléphone sonne ce soir, donc j'ai été sur Google, France Inter, et alors que j'étais en train de regarder, je vois dans la page des annonces Google un petit chapitre où il y a marqué « Délinquance des jeunes »,« La justice est-elle assez sévère ?» Point d'interrogation. « Votez en ligne, soutenez Nicolas Sarkozy. » www.ump.org. J'en suis resté sur le cul. Il est vraiment partout. Bon, je vais aller chier un coup. J'espère qu'il ne sera pas entre deux feuilles. Ciao Yves, portez-vous bien.
Allô, bonjour. Je suis Sabia de Nice. Je remercie beaucoup France Inter, la radio que je préfère. Merci de nous avoir donné la parole à cette émission. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler des intégristes musulmans. Je suis malheureuse quand je vois qu'il y a des intégristes qui cherchent que l'argent et le pouvoir salissent une si belle religion. Mais d'un autre côté, en ce mois de Ramadan, je suis heureuse de voir qu'il y a encore la foi et que le vrai islam va très bien, avec tous les jours de plus en plus de fidèles. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Allô, allô, c'est Bruno de Paris. Voilà, j'ai entendu à France Inter, la géniale radio qui nous écoute, entre autres que il y avait des quêtes pour l'hôpital. Je dis bien que l'hôpital fait la quête. On a besoin de sous à l'hôpital. Jusque-là, c'est pas terrible comme nouvelle. Mais enfin, ce qui me choque le plus, c'est que l'hôpital fasse la charité pour un truc qui est un service public. Un service public, c'est nos impôts. Et bientôt, on va demander de payer les salaires des employés, tout ça, avec des quêtes. Donc, quelque part, il y a comme du foutage de gueule. J'aimerais bien que l'hôpital demande à l'État ce qui lui est dû et pas que aux pauvres consommateurs que nous sommes. Ah, je sais, c'est un peu con, mais j'aime pas du tout cette idée que le service public, c'est une vache à lait. Allez, salut.
C'est Myriam. J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Charlie Bauer en Bretagne pour deux projections débat. Donc, la première aura lieu le mercredi 25 octobre chez Ramon et Pedro, donc rue du Hamel, près de la gare SNCF et donc à Rennes. La deuxième projection débat, le jeudi 26 octobre à 20h également, au café La Stone, 7 rue en bas, à Vitré. Ça se situe dans le centre-ville de Vitré. L'entrée est gratuite et ces deux soirées seront suivies d'une rencontre sur différents thèmes. L'oppression, les traitements inhumains et dégradants du milieu carcéral, mais aussi la liberté, la résistance. Si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur le site de Charlie Bauer, www.charliebauer.com. Merci, à bientôt.
Salut Daniel, bravo et merci pour tout. Je t'appelle de Bordeaux pour un sursaut citoyen de tous les Bordelais qui ne veulent pas du retour anticipé d'Alain Juppé à Bordeaux, sachant que sa campagne va coûter 600 000 euros et que ce sera à rejouer dès 2008 pour le même prix et qu'à ce moment-là, les élus resteront cette fois si au pouvoir pour 6 ans. Alain Juppé à Bordeaux, non. Je ne peux pas lire tout le tract, donc je donne l'adresse qui est www.activisme.org. HACKTIVISMES.org. Voilà. Plusieurs associations se sont regroupées. Et rendez-vous le 6 octobre 2006 à 18h30 devant la mairie. Préparons ensemble les élections 2008. En plus, le Front National s'en mêle. On n'a pas besoin du Front National pour être contre le retour de Juppé à Bordeaux. Merci Daniel. Au revoir.
Et oui, bien sûr, espérons qu'il n'est pas caché entre deux feuilles. Merci en tout cas pour ces messages, quelques messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base J'y suis au 0156 40 37 37. On va célébrer l'anniversaire, le 25e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, et on a choisi de retrouver un reportage de Guy Van Til sur le dernier exécuteur, et ça nous renvoie à une page, espérons-le, à jamais abolie de notre histoire. Et c'est pas sans rapport avec ce que nous vivons ici, les gens que nous rencontrons ici, en Afghanistan. Là, on est toujours à Jalalabad. une drôle de ville, Jalalabad. Et hier soir, on dînait avec un jeune afghan, une trentaine d'années, qui est un intellectuel afghan particulièrement vif et particulièrement, comme on dit, articulé, et qui nous racontait dans l'obscurité, comme ça, la nuit, des histoires de sa jeunesse, des choses qu'il avait vécues, des choses terribles qu'il avait vécues. Et on se disait que quand on vient dans un pays comme ça, comme des journalistes, eh bien on vient avec des dossiers, des chiffres, des rapports, des résumés, des idées, des toutes sortes de choses a priori, et on finit par oublier la chose la plus simple, la plus facile, c'est de regarder simplement les gens. Les Afghans sont des gens cabossés, sont des gens esquintés. Ça fait 28 ans qu'ils sont en guerre. 28 ans, ils ont vécu des guerres successives, des guerres civiles, des occupations, des guerres fratricides. Et ils ont vécu en permanence. Aujourd'hui, c'est des attentats qui reprennent, des attentats suicides, très, évidemment, traumatisants. Et c'est un traumatisme sans interruption. Et il y a ce qui est visible, et puis ce qui l'est moins, évidemment, il y a l'intérieur des gens. Ils sont cabossés aussi que l'intérieur. Et donc, ce jeune homme nous racontait des histoires terribles, comment, avec ses parents, il a fui de Jalalabad vers le Pakistan, vers Panjshir, et comment ils ont été conduits à traverser des champs, des espaces, et tout d'un coup il y a eu une explosion, ils ont pensé que c'était une roquette qui était tombée sur une personne qui marchait, ils étaient en groupe, et ils sont aperçus que c'était pas une roquette qui était tombée, c'était une mine qui avait explosé, et d'autres mines ont explosé, et tout le champ de mines a explosé sous les pas des migrants, des gens qui fuyaient vers la frontière, et il a ainsi perdu deux de ses frères sous ses yeux, et un de ses frères a été amputé à sa mère. Il nous racontait une autre histoire, à l'endroit même où nous étions en train de boire du thé, il se souvenait d'une exécution publique, des comment les talibans avaient contraint les habitants à se concentrer, à venir tous sur cette grande terre vague à la sortie de la ville, y compris les commerçants qui étaient obligés de fermer la boutique et de venir assister là à une exécution. À une exécution publique d'un homme qui était accusé d'un crime. La famille de la victime n'avait pas pardonné, et donc l'exécution publique a eu lieu là, sous les yeux de la foule, et l'homme a été, nous disait-il, a été exécuté comme un mouton, a été tué, égorgé comme un mouton, sous ses yeux à lui d'enfant, contraint de voir cette scène. Et encore une autre histoire qu'il nous racontait, plus épouvantable encore, ou autant, les savoir, c'était celle de l'exécution de deux voleurs, et c'était une exécution publique, deux voleurs, avec deux médecins qui étaient présents, et deux talibans pour exécuter ces deux voleurs. Il s'agissait de leur couper la main, puisque, soi-disant, évidemment, c'est une interprétation abusive, les écritures disent qu'il faut couper la main du voleur. Donc, on a exécuté les mains, coupé les mains de ces voleurs, et les médecins qui étaient là pour immédiatement cicatriser le membre amputé. Et c'était en public, et notre ami nous disait que ce qui l'avait traumatisé, c'était qu'un enfant dans la foule disait « Papa, je ne vois pas bien, papa, je ne vois pas bien » à son père. Et le père a pris l'enfant sur son dos, sur ses épaules, de façon à ce que l'enfant voit au mieux la scène. Et il disait que c'était quelque chose qui l'avait beaucoup traumatisé dans sa vie. Donc, bien sûr, ce qu'il avait vu, mais surtout que le père ait l'idée de mettre son enfant sur les épaules. Et je me racontais comment autrefois, chez nous, il y avait des exécutions publiques en France, et que la foule était aussi curieuse, une façon aussi détestable, évidemment, on a honte d'appartenir à une même humanité, mais nous sommes ainsi. Et c'est rendre toute la noblesse qu'il y a eu, tout cet acte politique noble qu'il y a eu à abolir la peine de mort. On est nombreux à se souvenir des débats de l'époque, et ça laisse espérer que dans d'autres domaines, rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais définitivement écrit ni certain. Voilà. On va donc retrouver ce reportage de Guy Gentil avec le dernier bourreau après les messages, que voici quelques messages encore que vous avez laissés au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. Un pas de plus a été franchi dans la lutte des sans-papiers. Des travailleurs sans papier, exploités par la blanchisserie Modelux de Chilly-Mazarin, depuis plusieurs années avec l'accord tacite de la préfecture de l'Essonne, entament un mouvement de grève depuis le 29 septembre. Ils occupent leur entreprise en vue d'être régularisés. Nous, collectif Nord-Essonne du 29 mai, soutenons le combat de ces sans-papiers et appelons à leur régularisation immédiate. Comme le rappelle notre charte pour une alternative au libéralisme. Soutenons-les. On est avec vous et vive la Bassie ici. À bientôt.
Bonjour, je voudrais signaler que samedi 7 octobre aura lieu en Europe et en Afrique une journée pour dénoncer la mort de tous les migrants quand ils souhaitent venir travailler dans nos pays différents, divers et variés. Moi j'appelle pour Le Havre, ça se passera à 15h devant le magasin Le Printemps pour ceux qui connaissent, et je pense que dans vos villes à tous il se passe quelque chose. Donc renseignez-vous, il est important de dénoncer ces morts qui souvent sont passées sous silence, puisque cette année, 9624 personnes, dont des bébés de 3 mois, sont morts en tentant d'émigrer, et souvent morts dans des conditions pas très claires. Au revoir et merci.
Le Clos Saint-Lazare, au petit matin, un agent EDF...
Entre le condamné arrive devant la bascule et la tête coupée, 3 secondes de vie. C'est très 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 rapide.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, parole de bourreau, Fernand Messonnier, exécuteur des arrêts criminels.
Flight number 2, arriving from
Newton. Et tous des panneaux, comme là, vous voyez, là, c'était, vous voilà.
Et voilà, là, c'est le reste de votre collection. Et voilà la guillotine.
Ouais, la guillotine.
C'est votre guillotine à vous, oui. Votre petit souvenir. Ah, vous allez me montrer comment on fait.
Voilà. Alors, le condamné, il arrive comme ça, oui.
Voilà,
le joint de chaque côté. La demi-lunette, elle est soulevée.
C'est la demi-lunette, là, c'est là où on passe la tête.
Oui, elle est soulevée. Là, vous voyez, la bascule, elle est retirée. Donc, elle est comme ça, vous voyez.
Ça, c'est...
Après, c'est comme ça, vous voyez.
Ah, la planche sur laquelle on est allongé, en fait, d'abord, elle est verticale.
Voilà, elle est vous avez ici. Là. Et moi, je suis là.
Vous êtes de l'autre côté de la lame.
Je tire, voilà.
On le fait glisser jusqu'au... Comment ça s'appelle, ça? Jusqu'au carcan, là.
La demi-lunette.
Bon. Et alors, vous faites quoi à ce moment-là?
Eh bien, quand il bascule comme ça, je m'avance entre les deux montants, je tire la tête, et je là, ici, là.
Ah, aïe. Ah, juste derrière les oreilles, ah, là, les mâchoires.
Oui, mais si je fais fort ici, ça vous fait mal, je donne un coup comme ça, tac.
Arrêtez, vous me faites mal, là. Voilà. En prenant fort, là, derrière les oreilles, en fait, quoi, oui, la jointure de la mâchoire.
Une fois qu'il dénonce ça, comme ça.
Là, vous faites là, le geste d'attraper
ça,
la tête. Ou...
L'autre côté, il y a la lame qui coupe. C'est tellement rapide qu'il n'a pas les secondes nécessaires pour se décaler.
Pour bouger, pour essayer de se débattre.
Tellement. Et hop, j'ai dit vas-y à mon père. Et il déclenche, ça y est. La tête est droite dans la main.
C'est vous qui en fait lancez
le signe de
la lame qui tombe.
Parce que mon père ne voit pas. Il est de l'autre côté, il ne voit pas. Paf. Et j'ai dit vas-y, crac.
Et la lame tombe.
Ouais, tombe ouais.
Mais alors du coup. Quand la lame tombe, vous vous retrouvez avec la tête dans les mains.
Non, mais voilà. Ah, bien sûr, ça fait drôle.
Ah oui.
Ah oui. Avoir une tête d'un compte type en vie, et puis d'un coup, il n'a plus de vie, une tête sans vie.
On l'appelle photographe. Parce que regardez.
Oui, c'est le photographe. Ah, et on vous appelle le photographe parce que voilà, vous êtes de l'autre côté et c'est le...
arriver dans l'objectif.
L'objectif, c'est la lunette de...
Et puis après, le corps qui tombe dans la corbeille.
Ah, la corbeille qui est juste à côté, voilà. Le corps qui a plus de tête, on le fait tomber sur le côté.
Et après, moi, la tête dans la main, je mets dans la corbeille.
Et c'est qui est de l'autre côté?
Le sang gicle à 3 mètres. Ah oui.
Il y a un jet comme ça qui part à 3
mètres. Ah oui. D'un coup. Puis après, des petits jets comme ça. Le corps continue à battre. Vous voyez? Voilà.
Et la tête, vous la lâchez tout de suite?
Non, je dépose dans la... Dans la corbeille.
Qu'est-ce qu'on en fait après?
Et après, c'est le cocon qui vient, il met dans le cercueil. Mmh. Oh, bien sûr, j'ai des détails parce que des trucs invraisemblables. En Algérie, des fois, quand il y avait plusieurs exécutions, bien sûr, mon père a trouvé le truc de faire des petits cercueils. Pour, dès qu'un exécuté, on met le corps dedans. Parce que sinon, c'est dur. Comment moi je peux vous reconnaître, moi, comme M. B7, si c'est pas par la tête?
Vous voulez dire qu'une fois que la tête et le corps sont séparés, pour pas pouvoir s'en mêler?
Il y en a cinq. Et ben moi, je suis incapable. Je les ai vus pendant 20 minutes. Des fois, c'est les gardiens. Non, c'est la tête de Abderrahman. Non, c'est la tête d'Amidal. Et bon, je sais pas.
C'est vrai que c'est des questions qu'avant de l'avoir vécu, on a du mal à se poser cette question-là.
Entre le condamné arrive devant la bascule et la tête coupée, 3 secondes de vie. C'est très, très, très rapide.
Assassin fait un dur métier.
À l'heure du crime, il faut se lever.
Et pour tuer prestement.
Par la lame qui saigne à blanc.
Il étudie l'anatomie.
Il sait pas où s'en va la vie.
Et qu'on peut pas saigner la vieille.
En lui tranchant le gros orteil.
L'assassin doit se cultiver.
Des revues spécialisées.
Apprendre le geste du sommeil.
Du sonneur qui sème la peur.
Et te planter dans la poitrine.
Le couteau ne prend pas racine.
Et qu'un couteau planté dans le dos.
Il devient un joli porte-manteau. Y'a assassin et assassin.
À la démarche, je la déviens.
Se faire assassiner, c'est rien.
Si on tombe pas sur un savoir.
Y'a assassin et assassin.
À la démarche, je la déviens.
Pour trouver un bon assassin.
Dans les pages rouges du quotidien. La chair humaine, c'est pas du lard.
Le dépeçage est tout un art.
L'assassin, véritable artiste.
Avec un côté de pianiste.
Il ne découpe pas, monsieur Dupont.
Comment découpe le cochon?
Pour obtenir de beaux jambons.
Le contour du caleçon. Y'a assassin et assassin.
Y'en a des moches, y'en a des biens.
Se faire assassiner, c'est rien.
Y'en a des moches, y'en a des biens.
Pour des rabbins assassins.
Par les pages rouges du bottin.
Comment on pourrait vous présenter?
Ah, très, très humain. Je suis très sensible. Malgré cette fonction que j'ai eue, des fois quand je vois... Des émissions, ça paraît drôle, hein. Des émotions sur perdu de vue ou des trucs comme ça.
Et la télé?
La télé, j'ai là, moi, je suis content de... Mon père aussi, c'est très sensible. C'est ça, ça a rien à voir. Une fois, un ami qui avait une Peugeot avec des grandes manivelles, là, la manivelle l'a échappé des mains, il s'est fait un coup sur le crâne, et le crâne, on saigne d'un moment du crâne, vous voyez, le sang du coulait au commissaire des lèvres, ça. Eh bien, je me trouvais mal. Je me suis senti mal.
Parce que le mec avait le
parce que c'est un copain, parce que il souffrait. Alors que des condamnés à mort, j'ai tenu la tête. Je me levais les mains, je me douchais après, parce que bien sûr, le côté malsain de toucher un type pourri. Pour moi, c'est type pourri, un type qui ont égorgé, qui ont violé des enfants et tout. C'est là, quand vous touchez un type comme ça, c'est des bêtes. C'est pas... Maintenant, un FLN, il y a eu des types courageux qui ont les armes à la main, tout ça. C'est plus la même chose. Bam, et puis le... je sentais vraiment... Putain, j'ai accalé, craqué, putain. D'un coup, et après des petits jets comme ça. Pam, pam, pam. Bam, et puis le... je sentais vraiment, putain, j'ai accalé, craqué, putain. D'un coup, et après des petits jets comme ça. Pam, 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 et puis je sentais vraiment, putain, j'ai accalé, craqué, putain.
À découper, et après des petits jets, suivant les pointillés. Je me souviens du tatouage écrit en bleu autour du cou de Monsieur Alphonse, un copain de papa, quand on cueillait les cerises en maillot de corps au mois de juin, à découper suivant les pointillés. La bascule à Charlot, la machine à déblaire, la veuve, les bois de justice, la bécane. Que de petits noms élus, la guillotine qui fut inventée avant, bien avant, le docteur Guillotin, souvenez-vous, la décollation, vieille coutume, jusqu'à l'abolition, jusqu'à la disparition de la guillotine qui fit des chômeurs parmi les bourreaux. Ah non, exécuteurs. Il faut dire exécuteurs. Exécuteurs des hautes œuvres. Et voici que l'un d'eux, le dernier, François Meissonnier, parle. Le premier à s'exprimer dans un livre tout à fait étonnant, Paroles de bourreau, témoignage unique d'un exécuteur, recueilli par un anthropologue qui s'appelle Jean-Michel Bessette. Le témoignage de Fernand Meissonnier nous renvoie simplement à la frontière entre notre inhumanité et notre humanité, à ce qui sépare les deux, qui tranche entre les deux, l'humanité et l'inhumanité, comme, oui, comme la hache ou la lame, plus progressiste et plus hygiénique, sépare le corps de la tête. Voilà qui nous renvoie à ce droit de tuer, ce monopole de la violence qui est celui de l'État, qui nous renvoie à un passé qui semblera barbare alors que la barbarie n'a fait jamais que changer d'habit et non pas d'avis. Fernand Meissonnier, exécuteur des arrêts criminels, un témoignage qui dépasse le pittoresque et même l'humour noir, depuis longtemps lié à ceux qui découpèrent selon les pointillés.
Alors parlez-moi de votre père.
Mon père était communiste. Ah oui, il était communiste. Il était communiste, mais d'abord républicain. Il aimait son pays d'abord. Mais en 44-45, c'est là les communistes qui ont poussé les Arabes à la révolte. Et mon père, c'est de plus doucement, il s'est plus occupé de la politique. Plus rien, plus c'est fini. Ni de droite, ni de gauche, c'est fini. Et mon père a pris le bar-restaurant à la Perlée. Le café La Perlière, il est écœuré.
Il s'occupait de
son truc. Mais il a gardé comme son esprit communiste parce que c'est le seul qui partageait sa paye d'exécuteur en chef avec ma paye et celle des trois autres adjoints. On divisait par cinq. Mon père, c'était pas tellement le salaire, c'était cette fonction qu'il aimait, mais jamais à la maison, on parlait des exécutions, ni ma mère, ni mon père, ni tout.
Comment il est devenu exécuteur, votre père?
Comment
il est devenu?
Il est devenu exécuteur. Mon parrain, c'était exécuteur en chef. Mais ils sont une famille de, ça remonte à François Ier, hein. C'est une très vieille famille. Les Rocs, les Bergers. Bergers étaient alliés avec Sanson.
C'est qui Sanson?
Comment Sanson? C'est la famille qui a l'exécuteur Louis XVI.
Quand on vous... Une lignée d'exécuteurs.
Oui, quand on vous dit monsieur de Paris, monsieur d'Alger, c'est parce qu'à l'époque, comme exécuteur, comment ils allaient dire? Alors ils disaient monsieur de Paris, voyez.
Et monsieur d'Alger, c'était Roc.
C'était Roc, et après c'était Berger, et après c'était mon père.
Et monsieur d'Alger, ça voulait dire celui qui fait marcher la guillotine.
Voilà.
Oui, c'était comme une charge, quoi. C'était pas emploi, c'était...
C'est une charge, était auxiliaire d'État. C'est pour ça qu'on n'a jamais payé d'impôts sur la fonction d'exécuteur. Même on pouvait gagner 6 fois ou 10 fois le SMIC.
L'exécution nette d'impôts.
Alors,
comment vous dites d'ailleurs? Vous dites bourreau? Vous dites exécuteur?
Non, on dit exécuteur. Qu'est-ce que bourreau, ça veut dire bourré de coups? Vous voyez, c'est pas du tout...
Ah, c'est péjoratif, quoi.
Bon, on dit pas le bourreau, non. Mais les gens ne sont... Oui, alors, bien sûr, vous dites parole de bourreau, là... Ah bon, ah, ça c'est on parle de guillotine, ça y est. Oui. Mais si on dit exécuteur.
Alors c'était le terme officiel, c'était quoi? Exécuteur.
Des arrêts criminels.
Des arrêts criminels.
Ou des sentences criminelles.
Ah, Là, j'ai tout dans un coin, il y a tous vos papiers qui sont stockés, plein d'archives qui sont... C'est quoi ça, par exemple, cette page-là qui est là? C'est quoi ces listes là qu'on voit?
Là, c'est... Tous les condamnés, on les exécuté. C'est une page. Il y a plusieurs pages. Rien que des terroristes, hein, 141.
Alors, il y a écrit terroriste, terroriste, terroriste.
Terroriste au début. Alors, 56. Voilà.
Il y a des noms. Frère Adjan Delkader.
Sina, voilà.
4 morts et 20 blessés.
Ouais.
Exécuté le 3 juillet 1956. Ouais. Terroriste exécuté. On arrive à
141. Terroriste, hein. C'était tous des terroristes, là.
Que vous avez exécuté.
On a exécuté. La première exécution, c'est vrai, j'avais 16 ans, j'étais très impressionné. D'abord, j'étais à deux doigts de dire, je vais pas y aller. Si c'est pas une mouche qu'on tue, hein, quand même. Hein.
C'est pas une mouche qu'on tue.
Bien sûr, c'est vous rendez compte, c'est un être humain, malgré qu'il ait fait un crime horrible. Et il devait être 4 heures du matin. J'entends le premier chant du muezzin, c'est
l'appel à la prière.
Oui, la première qui appelle à la prière, le ciel se palissait un peu, vous voyez. C'était comme une chape de plomb. Hein. J'étais là, je me rappelle, le cœur me battait. Berger et mon père, ils disent au procureur, il est l'heure. Ils ont été réveillés, le condamné. J'entends ça du peut-être 20 minutes. Et moi, tout le temps, attendre ça, c'était et d'un coup, les deux patins de la prison, boum, s'ouvre un fracas, et puis une clarté, parce que mon père voulait un sacré éclairage, il voulait pas, comme on entend des rocs, et puis de lampes et tout.
Tout s'allumait, comme sur une scène de théâtre ou de cirque.
De grosses lampes partout, c'était un éclairage, je vois sortir, donc, le condamné, descendre les quatre marches. Et quand il a basculé, j'ai vu sa tête entre les deux montants, j'étais à 2 mètres.
On la longe comme ça sur le
ventre. Oui, pam, 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 ça, c'est un oui. Et que la tête, l'âme est tombée, ça, oui, s'ouvre, hein, pam, et puis un jet de sang sur le côté, j'ai poussé un cri, ah! Je sentais, vraiment.
Vous tenez le coup, là.
Ah, oui, non, c'était impressionnant.
Ça, c'était votre première exécution.
Ah oui, ça, c'est impressionnant. Le gars, moi, j'avoue, hein, pas déconner, quand même. Après, le directeur appelle une bouteille de rhum, chacun boit une rhum, et je voyais au visage, il était tout blanc, blême, hein, c'est violent qu'on vient de voir.
Et ça vous a pas choqué, justement, de dire c'est ça le boulot de papa?
Non.
Comment
non,
il peut faire
non,
ce boulot?
Non, parce que je voyais tous les procédures, des crimes qu'on fait, des types ont fait des crimes horribles, une femme avec son mari ont envoyé leur propre gosse dans le port d'Alger, c'est horrible. Donc moi, pour moi, mon père, c'était un justicier. Alors quand j'étais 14 ans, j'ai été avec mon père voir la guillotine, on montait la guillotine, ils l'ont peinte, je m'appelle.
Quelle couleur?
Ah, c'était un lit de vin, ouais, Bordeaux. Et ça sentait cette odeur caractéristique du sang humain.
Hein?
C'est une odeur. C'est comme une boucherie chevaline. C'est pas mon odeur que de charcuterie. Eh ben, le sang humain, c'est une odeur.
C'est-à-dire que la guillotine sentait le sang.
Ah oui.
Même
malgré le lavage au grand jet d'eau, là, ça donne une odeur. Je sentais cette odeur. Et après, quand il était nommé, j'ai senti...
C'est comment cette odeur?
C'est pas une odeur désagréable, c'est une odeur... Vous voyez, l'odeur du sang. Eh bien, c'est ça. Mais bien sûr, une petite une coupure hein, comme ça, mais bien sûr, quand il y a le sang humain, c'est d'un coup, il y a 5-6 litres. Hein, bon, alors quand on est arrivé à en faire 5, dans la journée, ça fait un paquet. Hein. Et... Même 40 ans après, maintenant, il y aurait une exécution, je sens de suite le sang humain. Ça a une odeur caractéristique. Alors après, bien sûr, c'est pas on s'habitue au sang, mais on finit par s'habituer. L'homme s'habitue à tout. Hein.
Les gens voulaient assister aux exécutions. On vous demandait ça comme une faveur.
Oui.
C'était un spectacle.
Écoutez, rien n'a changé. Hein. Quand on a tué, qu'on a écartelé Ravaillac, il fallait que le supplice dure 1 heure et quart avant que le cœur lâche. c'est pire encore. Tout le monde voulait voir. Oui, c'est malsain. Hein.
Mais alors, l'exécution de la sentence de peine de mort, ça aussi c'était un spectacle, et ça aussi les gens venaient, ça se faisait.
Ah, c'était public. Après 39, c'était dans la cour de prison. Il y a plus. À Oran, en 38, il y a eu l'affaire Zahoui et des deux Arabes, il y a eu, je sais pas, des milliers de personnes.
Est-ce qu'on voulait voir Zahoui se faire tuer ou est-ce qu'on voulait voir le spectacle de la mort?
Eh bien, j'en sais rien, moi. Les gens venaient, c'est certains par un goût sadique, d'autres, je sais pas, moi, ils veulent voir du sang, hein. D'ailleurs, regardez quand il y a des films, des fois, d'horreur, coup de couteau et tout, tout le monde regarde ces films. Moi, je tourne.
Ouais, mais c'est du cinéma.
J'aime pas.
Ah, vous regardez pas les films d'horreur, ça vous gêne?
Ah non, je suis mal à l'aise. Non. Pourquoi inventer encore? Il y a déjà assez d'horreur, pourquoi en inventer, hein? Faut voir ça. Moi, quand je tenais la tête du condamné, bien sûr, on peut être émotionné, mais c'est surtout de la technicité. Moi, je voulais surtout le point de vue technique. C'est pas du courage que j'ai. C'est là qui dit c'est du courage. Non, c'est pas du courage. Il faut du sang-froid pour ne pas louper une exécution. C'est ça qu'il faut. Technique. Et puis, je pensais surtout aux victimes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça.
Et pas le mec qui est en face de soi, à qui on va décoller
surtout,
la tête.
Surtout quand vous tombez sur des gars qui se vantent. Ils se vantent, moi j'ai vu des gars se vanter. J'ai jamais vu un condamné, du moins moi, hein, qui dit « c'est pas moi, je suis innocent », tout ça, jamais.
Jamais.
Jamais, 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 jamais.
Service, exécution capitale des personnels non militaires condamnés par les tribunaux permanents des forces armées en Algérie. En application des dispositions réglementaires, l'exécuteur en chef des arrêts criminels est chargé de l'exécution des personnels non militaires condamnés à mort par les tribunaux militaires permanents des forces armées. Le remboursement des frais entraînés par les exécutions lui sera assuré selon le tarif appliqué par le gouvernement général de l'Algérie et conformément aux ordres de l'intendance.
J'ai vu un militaire, un pilote, hein, qui a, pendant la guerre, hein, il a bombé à Dresde, à Berlin, jeté des bombes, tout ça. Je n'aurais pas le courage de lâcher des bombes sur des innocents. Là, moi, je sais qui je tue. C'est comme vous tuez un Allemand pendant la guerre, il tue un ennemi. Et là, je tue l'ennemi de la société. C'est pour ça que je préfère ma fonction que le procureur, qui demande la peine de mort sans... Il n'a pas le courage de déclencher la lame. Il est juré. Il demande facilement. Moi, ayant vu ce que j'ai vu, je demanderai le minimum d'exécution. Parce que il faut être sûr. Il faut être plus que sûr. Et il y a eu des erreurs. Moi, pas pour ma part, il y a eu des erreurs en 1800, 1820. Le malheureux est sûr qu'il était guillotiné pour rien. Eh bien, tous les ans, j'envoie des fleurs dans la tombe de Surque. Je sais pas que je prie, mais je me recueille, hein, en pensant qu'un exécuteur, il a participé à un crime. Il a fait un crime.
Ouais.
Voyez la tombe de Surque.
Là, c'est une photo que vous montrez de la tombe, probable victime du erreur judiciaire. Fernand Messonnier l'a retrouvée au Père Lachaise et au nom des exécuteurs des arrêts criminels, l'a fait fleurir régulièrement. Comme si c'était une culpabilité que vous deviez porter pour vos collègues exécuteurs.
Oui. C'est une erreur judiciaire. Et que ça me passe en travers, vous voyez, c'est dur.
Vous vous sentez responsable de ceux qui ont été tués injustement?
Je suis un peu responsable, mais pour ma part, heureusement que j'ai pas fait d'innocents. Alors là,
attendez, Fernand, vous dites j'ai pas tué d'innocents, moi tous ceux que j'ai tués c'était des salauds ou des criminels.
Oui.
Mais vous m'avez montré la liste de ceux que vous avez exécutés.
Oui.
Et dans cette liste-là, il y en a pas mal qu'on appelle terroristes. Les militants FLN, les militants de l'indépendance algérienne.
Oui, oui, oui.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, les résistants qui étaient exécutés par les Allemands, on les appelait aussi terroristes.
C'est pas la même chose, non. Non. Moi, pour ma part, hein, c'est des criminels. Quand on tue, on égorge des enfants, c'est pas la même chose. Hein.
Ouais, mais tous les gars du FLN n'ont pas égorgé des enfants non plus.
Non.
Il y en avait beaucoup.
Non, mais ils ont mis une bombe. Maintenant, un terroriste qui attaque des militaires, les armes à la main fédérale, il y a un trait, un quoi. Ce que j'aurais été peut-être algérien, ce que j'aurais fait. Je voyais bien en Algérie, quand il y avait des FLN pris des armes à la main, qui étaient vraiment des purs et durs. Ils chantaient les Algériens, ils sont morts avec un très grand courage. Aussi bien que des révolutionnaires de 93. Vous voyez, un courage exemplaire, il faut dire la vérité. Vous voyez.
Et vous les avez exécutés sous l'appellation terroriste.
Oui, oui.
Mais les terroristes...
Maintenant, j'aurais été exécuté. J'aurais été exécuté parce que, pour mon point de vue, nationaliste.
Voilà,
peut-être, oui. Mais ça, c'est la vie. Mais ça, il faut demander... C'est le procureur, c'est les jurés qui demandent la peine de mort. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis un bras de la justice. On calcule le poids pour la longueur de la corde. Et il laisse le type pendant une demi-heure.
Les bourreaux, ni des martiens, les bourreaux, ni des animaux, les bourreaux sont des humains, les bourreaux font de vieux os, les bourreaux se font pas de mourons, les bourreaux se lavent les mains, les bourreaux rentrent à la maison, les bourreaux après le turbin, les bourreaux de la vindicte, les bourreaux de la sentence, les bourreaux ne sont que la suite, les bourreaux suivent les instances. Les bourreaux, des petits bourreaux, chefs de bureau, des grands gourous, les bourreaux, chefs de bourreaux, les bourreaux savent trier, dit-on, livrer du bon grain, les bourreaux d'un coup de tampon te remplissent un train, les bourreaux, bourreaux d'enfants, les bourreaux, enfants de bourreaux, les bourreaux serrent les dents, les bourreaux abattent du boulot.
Bam, et puis le ah, je sentais vraiment, putain, j'ai accalé, craque, putain, d'un coup. D'après des petits géants. Pam, pam, pam. Pam. Et puis le ah, je sentais vraiment. Putain, j'ai calé le crack, putain. D'un coup. D'après des petits géants. Pam, pam, pam. Pam. Et puis le ah, je sentais vraiment.
Parole de bourreau, Fernand Meissonnier. Témoignage unique d'un exécuteur des arrêts criminels, un livre tout à fait étonnant, recueilli et présenté, ses paroles, par Jean-Michel Bessette, qui est anthropologue. C'est un témoignage, vous l'entendez, tout à fait stupéfiant, parce que il y a toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur... maintenant que la peine de mort est abolie, mais ce à quoi nous renvoient les paroles de Fernand Meissonnier, c'est temps, il faut se souvenir que c'est en 1939 seulement qu'on cessait les exécutions publiques. Jusque-là, on se pressait, nombreux avec, dit-on, ça c'est au temps de la Révolution française, au premier rang, ces femmes qui attendaient très longtemps l'exécution et qu'on appelait des tricoteuses. À partir de 39, les exécutions ont eu lieu à l'intérieur des cours de prison, comme si petit à petit il fallait que cette barbarie change, se cache, se dissimule, jusqu'aux formes qu'elle a prises aujourd'hui à travers les prisons, les quartiers de haute sécurité, la mort blanche, la mort lente, ou bien les façons d'exécuter toujours aux États-Unis. Et c'est quelque chose de nous-mêmes qui est là, quelque chose de notre vieux cerveau reptilien si avide de voir le sang gicler, comme Meissonnier vient de le décrire, et comment parfois, peu à peu, sait-on, notre conscience, notre humanité vient devant cette tendance à l'inhumanité. Mais ce que raconte aussi Meissonnier, c'est que l'homme est dressable à tout. On peut faire de l'homme tout, et on rejoint évidemment la banalité du mal dont parlait Hannah Arendt lors du procès d'Eichmann à Jérusalem. Il y a un lien indéniablement entre les paroles que nous entendons et celles-ci.
Mais en Algérie, mon père, lui, recevait du procureur, telle personne doit être exécutée. On le faisait dans la semaine ou 15 jours. Il fallait exécuter. Bon, mon père, ça l'arrangeait, il avait un bar. Donc, le dimanche soir, on partait, vous voyez.
Le mec se faisait exécuter en fonction de l'emploi du temps familial, quoi.
Voilà. On partait à Oran. Hop, il y avait trois exécutions à Oran. lendemain, on arrive à Alger, il y a encore deux encore à Constantinople. On retournait. Après, le lendemain, encore trois, quatre. Alors, on arrivait. Alors, je me posais des questions. J'ai dit, comment qu'ils pouvaient, honnêtement, juger, en février, il y a bien eu, entre les graciés et les condamnés, plus de 100 cas dans des mois.
Sans exécution?
Non, il y a eu 20.
Ah. Bon, sans peine de mort.
Il y a eu 80 ou 100 quand il y a Garcia. Le crime était le même.
C'était quoi?
Assassinat, incendiaire, vous voyez, attaque d'un convoi. Bon. Alors, le type qui était au grâce, il y a 10 condamnés, il fallait 30 grâces. Allez, tac, tac, allez, foutu. Et bien là, le type, si plus ou moins il joue au loto, où il a les chiffres père impair, alors il a l'autre qui a malchance de tomber impair, il parle à casserole. Allez, pompe, un, deux, allez, gracié. Tac, tac. Allez, tu lui passes à casserole. Tac. Voilà. J'ai dit à mon père, c'est pas possible. Quelle différence entre celui-là et celui-là? Aucun. Et comment juger? Mais ça, je posais à mon père m'a dit que tu vas pas commencer à te compliquer. Hein.
Pas se poser de questions.
Et poser
de
questions, et c'est on va pas maintenant à discuter, à dire pourquoi celui-là et pas celui-là. Hein.
Vous dites, plus de 100 fois j'ai exécuté, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remords sur une personne, non, sur un cas.
Là, si j'aurais un remords, si j'apprenais que tel condamné, on s'est trompé. Là, ce serait pour moi un cauchemar, d'avoir participé à un crime. C'est pour ça que je mets des fleurs sur le cirque.
Cette histoire, c'est cette tombe que vous fleurissez tous les ans, que vous avez essayé de rénover d'un gars qui s'est fait exécuter il y a maintenant bientôt 170 ans.
C'est le temps de la guerre d'Italie et de Napoléon.
Mais vous n'étiez pas né, ni vous, non, ni votre non, père,
mais,
ni rien.
Oui, mais je sais.
Mais ça, vous vous sentez coupable, vous vous sentez oui, responsable.
Voilà, de l'honneur de la justice, je fleuris la tombe de l'usurque parce que je suis contre les injustices. Je ne peux pas supporter les injustices. Je ne peux pas. J'essaie de me mettre dans la peau de sa famille, dans la peau du type, crier son innocence et personne n'entend. C'est horrible.
Moi, je trouve ça prodigieux que vous posiez autant de questions sur la culpabilité, sur les conditions de jugement, alors que vous vous en posez pas pour exécuter ce jugement et pour détacher la tête des épaules du gars.
Ah oui, mais oui, parce que c'est coupable. Si j'avais été à exécuter un type quelque couleur d'affiche, je ne pourrais pas le faire.
Et combien vous étiez payé pour les exécutions?
Alors, voilà. Les salaires fixés en 58, hein, les exécuteurs en chef, 43 333. Premier adjoint, 27 500. Les trois aides, 11 600. En 5 francs, bien sûr. Déplacement par jour, les exécuteurs en chef, 1820.
Ça, c'était la prime de déplacement.
Le montage.
Pour monter la guillotine.
Oui, 500 francs. Et 500 francs pour le démontage. Et puis, les primes de tête.
C'est quoi, prime de tête?
Par condamné.
Par tête coupée.
Voilà. 3000 francs, l'exécuteur en chef. Le premier adjoint, 2500. Et trois autres adjoints, 2000. Et il y avait une prime de risque de 12 000 francs par mois. En plus.
Donc, ça fait qu'au bout du compte, vous étiez bien payé.
Ah, mais pendant les événements, 20 dans le mois, vous direz, mettons, 4 fois ou 5 fois le SMIG. Eh bien, c'est bien payé, parce que vous touchez par là, vous travaillez une heure ou deux heures pour une exécution, mais finalement, c'est plus que payé. C'est vaut mieux être exécuteur que laboureur.
Ah bon?
Eh oui. Pourquoi laboureur, il va transpirer? Et moi, étant exécuteur, qu'est-ce que j'avais? Une exécution, deux exécutions. J'étais payé, port d'armes, j'avais un pouvoir que personne n'a. C'est uniquement ça. J'avais le temps libre, je courais après des filles, après je recommençais, parce que j'ai tout le temps aimé des filles. Voilà. Alors ce qui est curieux, j'ai eu des très 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 jolies filles. C'est pas d'enjouant, c'est d'avoir le temps. J'avais de l'argent, et j'allais à droite, à gauche, une fille, lundi, elle travaillait pas, ma pomme. Et je crois que je me demande, il y a peut-être un peu le piquant, si on dit, c'était pas un homme comme les autres.
Est-ce que les filles, elles connaissent, elles savaient votre boulot?
Oui, bien sûr, elles savaient, tout le monde le savait.
Hein. Et là, vous dites, ça les excitait un peu, ou ça...
Je me demande. Pas certain, mais je me dis des fois, oui. Je pense que c'est ça.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis bourreau. Ah ouais, tiens, piquant. Voilà ce que nous raconte Fernand Meissonnier. Parole de bourreau, le dernier et le premier, prétend l'auteur, prétend l'éditeur, à se confier aussi longuement dans ce livre, publié chez Imago et recueilli par Jean-Michel Bessette, l'unique témoignage d'un exécuteur des arrêts criminels.
Le 56, enfin, 58, on a fait 141.
141. Et là, c'est vous qui avez actionné le...
Ah non. C'est mon père.
Ah.
Mon père. Et que moi, les deux derniers que j'ai fait, mon père avait l'opération d'un cancer de la gorge, et il était fatigué. J'ai dit, écoute, je vais te remplacer. Vite, j'ai pris la place devant la guillotine. Un tel pouvoir, c'est ça. Comment expliquer? J'étais comme un point de mire. Il y a tous les magistrats, les gardes mobiles, là. Ils m'ont regardé, j'étais à la guillotine. Ils amènent...
C'était vous l'officiant, quoi?
Oui. Moi, je me dis comment? Moi qui aime bien la vie, qui aime rigoler avec les filles d'un côté et de l'autre, hein, je fais un truc de dureté incroyable. Ah ouais. Tuer mon semblable, là. Et sortir, après l'exécution, sortir de la prison avec tous les pieds noirs qui m'approuvaient. On avait un pouvoir incroyable, ça.
Et qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de se retrouver avec la tête coupée du mec dans les mains ou c'est d'actionner la manette?
C'est pas la même chose. D'avoir la tête dans les mains, c'est quand même l'impression d'avoir un type vivant. Genre. Et l'autre, c'est un pouvoir de dire, là, à une seconde, je déclenche, j'enlève une vie à un type. En quelques secondes, c'est cette vision que vous avez. Hein.
Mais vous, ça vous a fait gamberger d'actionner le geste de la manette?
Oui, mais là, je pense aux victimes. Si vous ne pensez pas aux victimes et vous pensez que le type est peut-être pas coupable, vous ne pouvez pas la faire. Impossible, ça. Voyez-vous comment ça tue un innocent? Non, on ne peut pas. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des gens, je ne sais pas, moi, un pacifiste ou un libre-penseur qui vous a traité de salaud un jour?
Ah non. Ni salaud, ni montre du doigt. Si on nous a choisis, à mon avis, c'est parce qu'on... L'État pensait qu'on était donc juste et humain. Voilà. Ordre de réquisition, vous voyez, regardez.
Ordre de réquisition individuelle.
Voilà.
Monsieur Meissonnier, exécuteur en chef des arrêts criminels, demeurant à Alger, est requis jusqu'à nouvel ordre pour assurer ses fonctions. Juin 57.
Et ça, attention, en 57, tour de curieuse. C'est Mitterrand.
Votre patron, c'était Mitterrand.
Et c'était Mitterrand. Et c'est là qu'il y a eu le plus d'exécutions. C'était autant de Mitterrand. Hein. Là, regardez, avec mon camping, car j'ai pas pu l'éviter à Sorgue. Un petit griffon, un petit chien. J'ai écrasé. Oh, putain, j'ai... J'ai accalé, rache, putain.
Est-ce que vous avez écrasé un chien?
J'étais chargé, le chien était tué, il est mort, écrasé, bon. Et chaque coup que je passe à Sorgue, là, paf, je pense à ce qu'ils font et que j'ai pas pu éviter.
Et comment on l'appelait la guillotine entre les techniciens?
La bécane. Berger, il disait la bécane. Mon père, il disait la machine. Il essaie de graisser la machine. La machine, et je savais bien que c'était pas une voiture. Hein.
Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, vous avez 72 ans, c'est ça? Vous avez changé de métier, vous avez changé de vie, mais vous l'avez toujours là, la machine.
Mais oui, mais c'était pour un témoignage d'histoire. C'est pour un témoin de l'histoire, c'est pas...
Parce qu'en fait,
je vous dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas le condamné, ce qu'a dit le condamné, parce que les gens, comme vous les premiers, qu'est-ce qu'il a dit, le sang, il a... Non, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, C'est surtout l'histoire de la justice, comment l'être humain en est arrivé. Alors...
J'ai l'impression que c'est ça que vous gambergez beaucoup, vous êtes documenté, vous avez recherché beaucoup pour essayer de réfléchir à tout ça.
Ah oui, oui, moi j'ai fait pas une collection des bouquins. En vieux français, c'est très dur. À lire, c'est très dur. Mettons, 1540.
Là, dans votre salon, il y a des chaînes, des entraves.
Non, mais ça, je vais vous dire.
Des hallebardes, des épées. Oui. C'est quoi la question que vous vous posez?
Non, non,
sur tout ça, sur tous ces instruments contendants, sur l'exercice de la justice, non, sur la sanction finale, sur la...
Non, mais ça, c'est des objets, comme je vous dirais, il y a une épée de justice, puis j'en ai six autres dans des caisses. Là, il y a toutes les archives, parce que j'ai un expert qui doit venir pour voir les pièces.
Mais c'est pourquoi toute cette collection?
J'ai fait un musée, parce que, pour l'histoire, l'histoire m'a tout le temps intéressé.
Oui, mais là, c'est bon, que mais, par le biais de la souffrance.
Mais c'est pas la souffrance.
Bah,
c'est...
Votre
non, non, mais non, il faut regarder d'un autre côté. Bon, comme j'étais exécuteur, dans l'histoire d'exécuteur, on parle pas de voiture, on parle pas de charrue, on parle de justice. Voilà ce qui m'a choqué. Ça serait pas eu drôle si moi, maçonnier et un exécuteur, je collectionne des voitures ou des charrues.
Non, vous collectionnez des, là, je vois ce que
c'est. Oui, parce que c'est.
Des chaînes, des épées,
oui,
des.
Parce que c'est.
Pour savoir comment on a l'histoire, en fait, de votre métier.
Mais non, regardez, là. Là, c'est Potence. Et là, c'est Daroux. Vous voyez?
Comme on ne sort pas du sujet, quoi.
Ouais.
Là, dans ce coin-là, qu'est-ce que je vois? Là, il y a votre. C'est votre buste en bronze?
Non, mais je sais.
C'est votre tête à vous?
Non, c'est ma tête.
C'est votre tête qui est sur la table.
Et mes mains, là, c'est mes mains.
Ah ça. Oui, c'est vos mains.
Et j'ai dit à ma fille, j'aime pas être enterré ou quoi, je sois ou incinéré. Voilà, comme j'ai mes parents incinérés. Je pense que je serai à vie, là.
On va mettre votre cendre dans...
Là-dedans, voilà. Ah, c'est creux. Et on peut mettre 3 kilos de cendre là-dedans. Voilà.
C'est quand même pas mal, un exécuteur qui a découpé des têtes... qui, à la fin de sa vie, va reposer dans sa tête.
Eh bien,
dans
sûr,
une tête.
Bien sûr, oui.
Et vous me dites, vous n'avez pas peur de la mort?
Non, alors là... Je pense la mort comme si c'était... je me couche ce soir. On est mort, on est mort. Hein, c'est peu. C'est nous qu'on a, on s'accroche à la vie parce qu'on veut vivre. Non, tu as passé ton temps au suivant. Moi-même, j'ai un cancer au foie, j'en ai la foudre, moi. J'ai bien vécu, j'ai vécu comme un type normal, au moins 150 ans. J'ai bien vécu, j'étais dans tous les pays, je me suis amusé, bien amusé, il y a des jolies filles et tout.
Hein? Et là, justement, si on revenait à la peine de mort en France, si on réinstituait la peine de mort en disant, bah, finalement, c'est ça la solution, il faut qu'on rétablisse la peine de mort.
Oui.
Et si on vient vous demander comment ça marche?
Vous êtes fini, là. Non, 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 j'ai fait mon temps, c'est tout.
Et vous avez jamais des images, justement, de la scène de l'exécution qui vous reviennent?
Non.
Le sang qui gicle?
Non, 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 non. J'ai même jamais eu de cauchemar, ni rêve. J'aimerais bien avoir un rêve. Parce que dans un rêve, on a des détails de l'exécution, vous voyez? Des trucs. Eh bien, jamais rêvé, non, non.
C'est qu'on râle pour qui veut pas. C'est qu'on pleure dans les marais. C'est qu'on gueule dans le fracas. C'est que toujours on dit jamais. C'est qu'on saigne sur nos pansements. C'est qu'on tombe avant les échelles. C'est qu'on dérape sur les serments. C'est qu'on se ressource à l'eau de vaisselle. On ouvrira peut-être un bistrot. Comme un boxeur, comme un cycliste, comme un ouvrier à la retraite. On ouvrira peut-être un bistrot pour kidnapper la fin de la fête. Qu'on veut faire du pain des miettes, qu'on n'a pas eu assez de sourire, qu'on s'est pas chopé Henriette, qu'on n'a pas peur d'avoir l'air pire, puisqu'on s'en fout d'être pas beau, puisqu'on a des croûtes aux genoux, puisqu'en haut c'est un peu trop haut, puisqu'on veut bien strier les poux, on ouvrira peut-être un bistrot, comme un boxeur, comme un cycliste, comme un ouvrier à la retraite, on ouvrira peut-être un bistrot. La fin de la fête. Alors comme ça on a vécu. Salut à tous les fatigués, les rigolos qu'en ont plein le cul, les amoureux au cœur cassé. C'est qu'on doit refleurir l'espoir. d'empiler honte de nos débâcles. Faut tendre aux vaillants un miroir. On le fera dans notre cour des miracles. Et on ouvrira un bistrot. Comme un boxeur, comme un cycliste, comme un ouvrier à la retraite. Et on ouvrira un bistrot pour kidnapper la fin de la fête.
Et on écoute La Hache de Loïc Lantoine, auteur, compositeur et non pas bourreau. Cet extrait de son deuxième album intitulé Tout est calme, apparaître début novembre sur le label Mon Slip. Ainsi s'achève Là-bas si j'y suis. Vous écoutiez aujourd'hui un reportage de Guy Vanctil. À lire Paroles de bourreau de Jean-Michel Bessette avec Fernand Messonnier. Et c'est aux éditions Imago. Vous retrouvez toutes ces références sur le site de Là-bas si j'y suis. Derrière la console aujourd'hui, il y avait Jean-Noël Vélan et Bertrand Durand. À la mise en onde, Yann Chouquet et Coy Nguyen, assisté de Pascal Pascariello. Le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert. Et le téléphone du répondeur, le 01 56 40 37 37.